Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On est au matin de la finale de la Coupe de France de football entre Lens et Nice. Et la soirée, vous allez voir, a été émaillée de violents affrontements à Paris impliquant des supporters niçois. 65 interpellations, 6 blessés dont un grave. Voilà le bilan ce matin et nous serons sur place dès le début du journal. Nous serons aussi à Colmar, là où vivait la mère de famille arrêtée au Portugal pour avoir abandonné ses deux enfants de 4 et 5 ans dans une forêt. Et on va vous reparler, vous donner les tout derniers chiffres du Livret A plus que jamais, qui n'attire plus du tout les Français. Vous allez voir qu'il a vécu son pire mois d'avril depuis 2009.
La finale de la Coupe de France a déjà commencé, malheureusement, de la mauvaise manière.
Oui, on savait que ce match entre Nice et Lens, ce soir au Stade de France, était classé à risque. Les autorités redoutant des affrontements impliquant les supporters. Eh bien, c'est manifestement ce qui s'est passé tard hier soir dans le quartier du Canal Saint-Martin, au nord-est de Paris, avec des affrontements très violents. Pierre Bazin, vous êtes en direct ce matin sur place pour RMC. Là où ça s'est passé, vous constatez de vous-même les dégâts.
Oui, ce matin, le long du canal Saint-Martin, la chaussée est couverte de verre brisé. Il y a des baskets abandonnées, des taches de sang sur les trottoirs qui témoignent de la violence des affrontements. Selon la préfecture de police de Paris, il est environ 23h30 hier lorsqu'une centaine de supporters niçois déambulent dans les rues cherchant à s'affronter avec des passants. Des hommes habillés de noir, parfois cagoulés, au cœur d'un déchaînement de violence. Armand, un riverain, était hier aux premières loges de ces affrontements. Au total, il y a eu hier 65 interpellations, Quentin. D'après un premier bilan, 6 personnes ont été blessées, dont une grièvement par des coups de couteau ou de tessons de bouteille. Selon une source sécuritaire à RMC, les autorités s'attendaient plutôt à des affrontements aujourd'hui entre supporters en marge de la finale de la Coupe de France, vous l'avez dit. Match classé à haut risque, mais visiblement, les hostilités semblent avoir commencé dès hier.
Voilà, Pierre Bazin qui a donc interrogé et qui s'est rendu ce matin sur place pour tenter de comprendre ce qui s'est passé tard hier soir à Paris, donc dans ce quartier du Canal Saint-Martin, avec ces affrontements entre supporters. On attend plus de 50 000 Lensois ce soir pour cette finale de Coupe de France que vous allez vivre à 21h sur RMC. Les enjeux sportifs, Nice veut sauver sa saison, Lens veut la parfaire en remportant pour la première fois de son histoire cette compétition. Les autorités portugaises et françaises cherchent toujours à comprendre ce matin le geste fou d'une mère de famille de 41 ans qui a été arrêtée hier au Portugal avec son nouveau compagnon après avoir donc abandonné ses deux enfants de 4 et 5 ans en prétextant un jeu, en leur bandant les yeux et en les laissant seuls dans une forêt. C'est un boulanger portugais qui les a retrouvés, il passait par là. Une information judiciaire est ouverte évidemment au Portugal et une autre en France, à Colmar, là où vivait la famille et où la disparition avait été signalée il y a 10 jours. Vous y êtes en direct ce matin pour RMC, Caroline Renaud. On a de premières infos sur le profil de cette mère de famille.
Oui, c'est elle qui avait la garde des deux enfants. Elle vivait avec eux dans un quartier du centre-ville de Colmar depuis son divorce il y a un peu plus d'un an. Selon nos informations, cette mère de 41 ans travaille dans le domaine médical. Elle était activement recherchée depuis 10 jours après avoir disparu sans donner d'explication avec ses deux garçons ainsi que son nouveau compagnon rencontré il y a quelques semaines et déjà connu des services de police français pour des troubles psychiatriques. Cette mère de famille est toujours aux mains des autorités portugaises comme son compagnon. Tous deux seront présentés devant un juge cet après-midi, selon la presse locale. Le père des deux enfants, lui, serait en route pour le Portugal après avoir déposé plainte pour soustraction de mineurs. Ses deux fils sont sains et saufs. Ils ont pour l'instant été remis à la protection de l'enfance portugaise.
Voilà pour les dernières infos ce matin avec Caroline Redon, direct de Colmar pour RMC. On est au lendemain, et vous le savez bien, des nouvelles annonces du gouvernement pour faire face aux conséquences de la guerre au Moyen-Orient. 710 millions d'euros, ça a été annoncé hier. Des aides carburant reconduites pendant 3 mois pour pêcheurs, agriculteurs, routiers, BTP. Le mot passé aussi aux patrons qui peuvent aller jusqu'à doubler la prime carburant pour ceux qui ont mis en place. Sonia Gobry du service politique à RMC en direct ce matin avec nous. On a bien compris que la marge de manœuvre était très limitée pour le gouvernement dans le contexte budgétaire. Et alors, on constate, hein, on est passé en quelques années de la politique du quoi qu'il en coûte à la politique du cas par cas.
Oui, et c'est assumé par Sébastien Lecornu, parce qu'on n'a pas fini de subir, pour reprendre ses mots, il le répète, il n'y a pas d'argent magique. Une baisse des taxes sur les carburants, c'est donc non. Ce serait même, dit-il, une connerie, un fardeau à porter en matière de déficit qu'il veut tenir autour des 5%. Alors, chaque aide sera compensée par des économies, les arbitrages sont en cours. Sébastien Lecornu ne veut pas de coup de rabot à l'aveugle, parce qu'il se projette politiquement dans la préparation du prochain budget. Il le sait, à quelques mois de la présidentielle, il sera ciblé de toutes parts. Mais le chef du gouvernement compte respecter la règle qu'il s'est fixée. Pas de cadeaux bizarres au mois de mai qui se transforment en augmentation d'impôts à l'automne.
Sonia Cobry pour RMC. On verra ce qu'en dit Marine Le Pen du Rassemblement National, invitée d'RMC ce matin à 8h25 face à Pauline. L'autre fait politique du jour à suivre, c'est Gabriel Attal qui devrait déclarer sa candidature à la présidentielle depuis l'Aveyron aujourd'hui, au milieu des vaches, façon Jacques Chirac en quelque sorte, pour se détacher de l'image d'Emmanuel Macron. Alors on parlait, souvenez-vous, hier matin à cette heure-là des 8 Français sur 10 qui se serre la ceinture, sondage ELAB qui n'arrive pas à boucler les fins de mois. Il y a une nouvelle info ce matin et c'est évidemment en lien. Le livret A n'attire plus les Français. On fait le constat depuis des mois, le taux a été abaissé à 1,5 en février. Mais c'était encore plus vrai le mois dernier. Pire mois d'avril depuis 2009, en pleine crise économique à l'époque. C'est ce que nous dit ce matin la Caisse des dépôts. Écoutez ce qu'en dit Philippe Crevel, le président du Cercle de l'épargne à qui on a passé un coup de fil tôt ce matin.
Pour les Français les plus modestes, il y a évidemment un problème de pouvoir d'achat. Ils tirent de l'argent sur leur livret A pour faire face à leurs dépenses courantes. Et puis, pour les Français qui ont de l'argent, se détournent un peu du livret A parce qu'il rapporte moins ou parce qu'il est au plafond. En revanche, l'assurance vie, depuis le mois de janvier, bat des records. Donc on voit que ceux qui ont de l'argent préfèrent l'assurance vie parce que c'est mieux rémunéré par rapport au livret A, dont le taux a été divisé par deux en un an entre 2025 et 2026.
Vous l'avez entendu un peu plus tôt ce matin sur RMC, le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, annonce qu'il saisit le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris pour lui signaler les propos en début d'année d'un des avocats de la Défense au procès en appel de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine. Cet avocat disait que Samuel Paty, je cite, un procédé à la discrimination des élèves musulmans, des propos que le ministre qualifie de choquants. Donc ce matin sur RMC, il y a cette nouvelle étude sur les enfants et les écrans publiée ce matin par l'Observatoire des tendances addictives. Elle aurait tous nous alarmer parce que les écrans ont des conséquences qu'on ne soupçonne pas, provoquant jusqu'à un vieillissement accéléré de la colonne vertébrale, un ralentissement dans l'acquisition du langage chez les plus jeunes, sans parler de tout ce qui est lié à la concentration. Écoutez avec Marion Gauthier et Clara Gabillet pour RMC.
Montrer une photo à son ami et au passage...
Automatiquement, je vais d'abord aller sur Snap. C'est un peu toxique.
Violette et Charlotte vont d'une application, d'un réseau social à l'autre.
Après, quand la vidéo est trop longue, des fois ça me saoule, donc je passe.
Trop long, c'est quoi ?
Plus de 30 secondes. Et j'ai le réflexe de, quand je regarde un film toute seule, d'aller dans mes Reels Insta, parce que ça m'ennuie, il n'y a pas assez d'action dedans.
Chaque pause utilisée pour regarder un écran...
Ce matin, je regardais TikTok, enfin, j'ai peut-être passé 2 heures dessus... Et je me souviens de absolument rien.
Admet Mathieu, 15 ans.
Bah, ça me donne du dopamine très facile et j'ai des profs qui me disent que je suis TDAH alors que je suis pas TDAH. C'est juste que j'ai moins de patience, j'ai besoin de stimulation constante et ça me donne plus de difficultés en cours, en tout, en regardant des films, en lire des livres, tout ça.
Cette incapacité à focaliser son attention entraîne ce que le docteur Alexandre Caron appelle une hypervigilance.
Que ça soit sur les troubles anxieux, sur les apprentissages, sur le sommeil, finalement l'hypervigilance, nous amène parfois à même nous réveiller la nuit dans l'expectative d'une notification.
Le cerveau sature et ce n'est pas qu'une question de temps d'écran, insiste-t-il. Il faut prendre en compte la manière dont ils sont utilisés pour trouver des solutions efficaces.
Et puis il n'y a pas que la finale, il n'y a pas que la finale de la Coupe de France en football, il y a aussi les finales de Coupe d'Europe de rugby tout ce week-end à Bilbao en Espagne, en attendant Bordeaux demain, dans la grande Coupe d'Europe. Il y aura la petite ce soir, Montpellier qui va tenter de la remporter pour la 3e fois. Ce sera contre les Irlandais de l'Ulster. On vivra ça évidemment sur RMC.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09. On parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chip. Bonjour Emmanuel. Donc beaucoup de mesures annoncées hier pour soulager la facture énergétique des Français, mais concrètement, à la fin du mois, ça représente combien pour chacun ?
Alors, si on s'intéresse à monsieur et madame tout le monde, donc pas aux entreprises pêcheurs, transporteurs routiers, BTP, etc., on a 27 millions de salariés qui travaillent, puisque tous les Français qui ne travaillent pas, de toute façon, n'auront droit à rien, à part à aller faire le plein chez Total. Donc, sur les petits salaires, c'est très simple, on avait 50 euros d'indemnité, on passe à 100 euros, il faut gagner à peu près pas plus de 1500 euros par mois. La mesure la plus intéressante, parce que c'est la seule potentiellement pour laquelle on peut parler du véritable changement d'échelle qu'avait évoqué le Premier ministre, eh bien c'est l'augmentation du plafond d'exonération fiscale et sociale de la prime carburant employeur. Ce plafond passe de 300 à 600 euros. De quoi s'agit-il ? En fait, c'est une prime facultative qui n'était touchée jusqu'à présent que par 1 million de salariés. Ça représentait entre 20 et 50 euros par mois. C'est à la discrétion de l'entreprise. Les patrons qui la versent déjà et qu'on a interrogé rapidement concrètement pour dire, est-ce que vous allez suivre ce que les...
Est-ce que vous allez effectivement doubler la prime?
Est-ce que vous allez doubler? Il y en a qui nous disent, bon, grosso modo, ils nous disent, allez, on peut remettre 30 euros au pot par mois. Mais le plus intéressant, c'est que les conditions d'attribution de cette aide qui étaient extrêmement contraignantes, là, tout saute. Donc concrètement, aujourd'hui, presque toutes les entreprises peuvent, si elles le souhaitent, grâce à l'assouplissement du dispositif, accorder cette aide. Et il faut rappeler que c'est colossal, puisque vous avez 3 Français sur 4 qui prennent leur voiture pour aller travailler. Donc la question, c'est est-ce que les entreprises ont joué le jeu? Ce qui inquiète, c'est que leur situation financière se dégrade et qu'en fait, c'est un dispositif qu'elles n'aiment pas beaucoup. Parce que ça fait du cas par cas, ça fait des tensions sociales dans l'entreprise. Pourquoi lui, il y a droit? Pourquoi moi, j'ai pas droit? Donc oui, il y a plus d'entreprises qui vont sans doute l'accorder, mais tous les Français salariés n'y auront pas droit.
C'est vraiment une séparation presque entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas, d'ailleurs.
Ah bah ceux qui ne travaillent pas n'ont droit à rien.
Exactement. Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC, Emmanuel.
Alors, le gazole, bah, on est à 2,16 € le litre. C'est 4 centimes de plus qu'à la veille du week-end dernier. Le sans-plomb 95, toujours un record absolu. 2 centimes de plus, même qu'en milieu de semaine, chaque jour, presque 1 centime de hausse. Le pétrole s'est retombé un peu. 104 $ le baril. On avait commencé la semaine à 110. Et sur le gaz, petite détente aussi, 40 € le mégawattheure après une pointe à 51 € en début de semaine.
Merci Emmanuel. 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et vous le savez, mon invité à 8h30, ce sera Marine Le Pen. Et vous êtes nombreux à nous envoyer vos messages, Mathieu.
Oui, elle répondra à vos questions dans une grosse dizaine de minutes sur RMC. Alain nous écrit « Bonjour Madame Le Pen, en cas de victoire du RN à la prochaine présidentielle, ne craignez-vous pas une bordélisation du pays par l'extrême gauche et quelles seraient vos mesures dans ce cas ?» Voilà ce que demande Alain. Alex a deux questions. La question que je lui poserai vraiment en premier, c'est que je suis salarié à domicile dans le domaine de la livraison. Comment veulent-ils faire au RN pour rapprocher le brut du net? Et puis, il ajoute, est-ce que le Rassemblement National autoriserait la France à extraire du pétrole à nouveau? Et il parle de la fragmentation hydraulique des gaz de schiste. Pardon, Alex, qui est sur le terrain des énergies et du carburant. Thierry demande, Madame Le Pen, comment vous réagissez à la levée de bouclier des partis politiques qui deviennent tous copains quand il s'agit de voter contre le RN? Et ne pensez-vous pas que le nom Le Pen reste malheureusement toujours préjudiciable? Voilà ce qu'écrit Thierry sur le WhatsApp RMC au 0612 424 424. Vous continuez à interroger Marine Le Pen qui sera l'invitée d'Apolline dans une dizaine de minutes sur RMC et BFM TV.
Et dans un instant, il y aura Arnaud Demange qui va venir nous faire rire. Et puis, Mathieu nous lisait à l'instant, Marine Le Pen qui sera donc mon invitée à 8h30 sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Tous les jours.
Il est là, Arnaud Demange, il est 8h15.
Hey, bonjour Apolline, bonjour les amis, bonjour Élise, bonjour Mathieu, bonjour Salut, Géraldine.
Bonjour.
Alors, Géraldine, avant de parler d'actu, un petit point météo avec vous, puisque je crois qu'on prévoit des pics de température à 35 degrés, c'est ça?
Oui, c'est
aujourd'hui.
Ça, c'est ça.
Alors attention à vos seniors, arrosez-les régulièrement. Et vraiment là, en plus je plaide coupable, parce que souvenez-vous, lundi, j'avais reproché à notre Madame Météo, Géraldine
oui,
de Maury, d'avoir
bien.
Fait pleuvoir tout le week-end sur toute la France. Et je lui avais demandé le retour du beau temps. Résultat, on est en alerte canicule. Géraldine, faut pas l'emmerder, quoi. Il va voir le comique, je vais te foutre 40 degrés à Dunkerque, les poissons de la Manche, ça va devenir de la bouillabaisse. La mer du Nord et tout. Quand ses voisins font du bruit à Géraldine, elle envoie un nuage de grêle sur leur pièce de tomate. Géraldine, c'est Zeus, Géraldine. Les candidats à la présidentielle, ils vont venir voir Apolline pour le face-à-face et après, ils vont consulter Géraldine directement. Gabriel Attal, par exemple, il va venir vous voir. Madame de Maurien, pourriez faire tomber de la pluie sur la tête de François Hollande? Bon, remarque, là, c'est facile. Enfin, je veux dire, ça ne demande pas une immense compétence, mais c'est un exemple. C'est pas le bon exemple, mais c'est un exemple. Sinon, dans l'actu,
un juge français qui va enquêter sur le prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Salman, à propos de la mort du journaliste Jamal Khashoggi.
Voilà.
Il est courageux, ce juge.
Bah, non seulement on n'a plus de pétrole iranien, on n'a plus de pétrole russe. Maintenant, on se fâche avec l'Arabie Saoudite, on va bien galérer à faire le plein. Je sais qu'en ce moment, on a lancé un puits de pétrole en Alsace, mais ça risque de pas suffire, vous voyez. Ça fera 163 € le litre. Oh, c'est du pétrole alsacien, c'est très rare. Alors, MBS, c'est Mohamed Ben Salman. Hein. Vous savez, son vrai nom d'ailleurs, c'est Mohamed Ben Salman Ben Abdelaziz Ben Abderrahman Ben Faisal Ben Turki Ben Abdallah Ben Mohamed Al Saoud. Vraiment son vrai nom. Donc son vrai surnom, en théorie, c'est MBS BABABFTBABMAS, ce qui se prononce MSBA C'est lui qui a inspiré les Hanson à la base. Donc on se souvient de l'affaire Jamal Khashoggi, assassiné et démembré dans le consulat saoudien à Istanbul. En fait, il avait fait l'erreur bête. Pour un journaliste saoudien, il avait choisi de devenir journaliste saoudien.
Ah oui, voilà,
ça, ça, ça pardonne pas. Comme dirait Jacques Villeray,
à la boulette. J'ai fait la boulette.
Donc il a voulu mener une enquête, genre il s'est cru dans une démocratie et tout. Et résultat, les agents saoudiens lui sont tombés dessus. Et alors là, l'accident con, en plein démembrement, il est mort. Oh là là, une histoire qui avait fait beaucoup réagir à l'époque, notamment Jean-Luc Mélenchon qui avait dit « Mais on peut faire ça aux journalistes ? On peut ! On a le droit !»
Alors l'AS Monaco a signé donc le latéral portugais Nazinho.
Nazinho, eh oui, Nazinho, Nazinho.
C'est vrai que ça, c'est-à-dire ça se prononce,
ça
sonne bien. Voilà, ça,
ça, se, ouais. Ça se prononce avec l'accent
ça
chantant. Nazinho,
petit,
c'est pas un pseudo comme
programme.
Ronaldinho, hein, c'est son vrai nom.
Ouais.
Heureusement, il a pas choisi. C'est son vrai nom. L'AS Monaco, je sais pas ce qu'ils ont ces dernières années. Il y a deux ans, ils avaient signé Adolf Hütter comme entraîneur. Après, ils avaient engagé Willem Goebbels. Et cette année, c'est Nazinho.
Oui.
Ça va devenir la SS Monaco. Dans six mois, on a une équipe au top. Et allez, le coup d'envoi qui est donné, là. Avec Nazinho, qui s'appuie sur Mussolina, qui dévie vers Auschwitz en première intention. En deuxième, Colabi. Troisième, Reich. Et Maxence Lacroix, là, avec son compère Pierre Gamet. Charnière solide, hein, Lacroix, Gamet. Et but ! But de Bolorino ! Vicente Bolorino qui ouvre le score sur cette passe de Vladimir Senius. Bref, c'est l'occasion de rejouer un jeu auquel on a déjà joué l'année dernière. Ce footballeur existe-t-il ou pas ? Je vous donne des noms de deux footballeurs. Vous me dites lequel est le vrai. C'est que des nouveaux noms par rapport à l'an dernier. Attention, top ! Lequel est le vrai entre Igor Lolo et Boris Cucu ?
Boris Cucu.
Non, c'est Lolo. Igor Lolo, c'est vrai. David Lambada ou Jonathan Bamba ?
Bamba.
Romano Mussolini ou Heinrich Hitler ?
Oh non !
Eh oui, il y en a un des deux qui est vrai. Non, c'est Mussolini qui est vrai. Et qui est descendant direct d'eux, d'ailleurs. Iago Pikachu ou Thiago Bulbizar ?
Bulbizar.
Non, Thiago, Iago Pikachu.
Mais non.
Si, 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 au Brésil. Kevin Lasagna, Brandon Carbonara.
Lasagna.
Nicolas Sachi, Teji Savachier. Attention,
c'est là où on
a une idée. C'est Nicolas Sachi, ouais. Antonis Minou ou Nikos Abrikos.
Abrikos.
Non, c'est Antonis Minou.
Allez.
Et enfin, last but not least, Oussama Bin Laden ou non. Norman Lelandais. Non, c'est Oussama Bin Laden, un vrai joueur. Allez, bon week-end.
Ah, incroyable.
Week-end.
Merci Arnaud. On vous retrouve tous les jours en podcast et en tournée partout en France. Arnaud sera à Dijon, à Genève. Enfin, Genève, c'est pas en France.
C'est pas en France,
oui,
c'est international.
C'est international, c'est worldwide. À Dijon, à Genève, à Gaillac, à Épinal, au Garric, à Frémin-Merlebach.
Oui, c'est la Lorraine.
Tout à fait, à Clermont. Je voyais ça dans l'Est, effectivement.
Ouais.
Clermont-Ferrand, Morières-les-Avignons, un spectacle RMC. Et maintenant, sans transition, je vais interviewer Marine Le Pen. Le face-à-face, c'est dans un instant, dès 8h25, et on sera ensemble jusqu'à 9h. Marine Le Pen qui répond donc à mes questions dans le face-à-face. Ça se passe sur RMC et BFM TV. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
Des affrontements à Paris cette nuit au bord du canal Saint-Martin. Ils ont impliqué des supporters niçois à quelques heures de la finale de la Coupe de France de foot ce soir contre Lens. Il y a 6 blessés, dont un grave. 65 personnes ont été placées en garde à vue selon la police. Le gel des allègements de charges confirmé ce matin par le gouvernement dans la foulée de la hausse du SMIC. C'était la crainte des entreprises qui estiment que le poids de cette hausse portera désormais sur leurs épaules. On fait le point sur les nouvelles aides carburant annoncées hier par le gouvernement. Le coup de pouce pour les gros rouleurs passe de 50 à 100 euros. Il est prolongé jusqu'à fin août, comme celui pour les agriculteurs, les transporteurs, les pêcheurs ou encore pour le secteur du BTP. Une liste de secteurs concernés qui s'allonge. Les aides à domicile ou encore certains fonctionnaires comme les profs remplaçants l'intègrent. L'animatrice Flavie Flamand dénonce une diffamation insupportable. Elle dit ce matin n'avoir jamais eu de relations sexuelles consenti avec Patrick Bruel. C'est la version défendue par les avocats du chanteur depuis qu'elle l'accuse de viol quand elle avait 16 ans. Une mère de famille française, partie de Colmar, a été arrêtée au Portugal hier. Elle est suspectée d'avoir bandé les yeux puis abandonné deux de ses enfants sur le bord de la route dans le pays. Âgés de 4 et 5 ans, ils avaient été recueillis par un automobiliste qui avait donné l'alerte mardi. Le nouveau compagnon de cette femme a lui aussi été interpellé. Et puis la météo, rien que du soleil, mais surtout de la chaleur à prévoir. Pour aujourd'hui, on va vivre un épisode de forte chaleur remarquable par sa précocité, son intensité et sa durée. Cet après-midi, on atteindra déjà des pointes à 35 degrés en Aquitaine. Il fera 24 à Nice, 27 à Marseille, Brest ou encore Rouen, 29 à Paris, 31 à La Rochelle ou encore 33 à Biarritz.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité dans le face-à-face, c'est Marine Le Pen, un face-à-face exceptionnel. On est ensemble jusqu'à 9h.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Il est 8h26 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions. Vous y répondrez d'ailleurs jusqu'à 9h exceptionnellement. Beaucoup, beaucoup de questions à vous poser sur votre candidature d'ailleurs également, puisque vous êtes toujours, au moment où l'on se parle, candidate à l'élection présidentielle. Vous êtes présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale. Vous êtes députée du Pas-de-Calais. Mais d'abord, évidemment, les aides annoncées hier par Sébastien Lecornu. Je me souviens que le 24 mars dernier, vous aviez dit, je vous cite, « L'État se comporte comme un profiteur de crise ». Vous pointiez du doigt des recettes indues liées à la flambée du carburant. Hier, Sébastien Lecornu a dit les caisses sont vides et il a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas de cagnotte, ni cachée ni pas cachée, puisque deux mois plus tard, côté rentrée fiscale, c'est quasiment rien. Il estime qu'il y a 10 millions juste d'euros qui sont rentrés dans les caisses depuis le début de la crise. Est-ce que vous dites toujours que c'est un profiteur de crise ?
Non, mais nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La réalité, c'est qu'on savait pertinemment qu'à partir du moment où le prix des carburants atteignait de tels niveaux, ça allait avoir un effet récessif, c'est-à-dire un effondrement en réalité de la consommation. Donc, les bénéfices que l'État souhaitait tirer, ce qui a été le cas un premier temps, eh bien, en réalité, refus, parce qu'à un certain niveau, les Français renoncent, voilà. Ils renoncent à se déplacer avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur l'activité économique.
Donc vous n'êtes pas surprise ?
Non, je ne suis pas surprise. Mais si, comme nous le souhaitions, il avait baissé la fiscalité sur les carburants, les Français auraient continué à consommer des carburants dont ils ont besoin pour vivre, pour se déplacer, pour travailler.
Ça veut dire que vous dites ce matin, Marine Le Pen, si effectivement il avait baissé les taxes dès le début, dès le mois de mars, en gros, on ne serait pas en crise aujourd'hui ?
Ah bon, il n'y aurait pas en tout cas cette baisse de la consommation avec toutes les conséquences, encore une fois, avec leur effet récessif sur l'économie, c'est sûr.
La guerre sera longue, dit Sébastien Lecornu. On n'a pas fini de subir. Alors, il n'y aura pas de baisse de taxes, mais il y aura des aides toujours ciblées, pour certaines doublées. Comment vous réagissez ?
Oui, enfin, écoutez, franchement, le déploiement de moyens de cette conférence de presse hier est inversement proportionnel à l'importance des annonces qui ont été faites. Il aurait pu se contenter d'un communiqué de presse plutôt que amener sept ministres pour expliquer qu'en réalité l'État va faire un effort de 200 millions par mois.
C'était de l'affichage ?
De 200 millions par mois à destination de ceux qui, s'ils ne les ont pas, vont fermer boutique. En réalité, c'est ça, parce que c'est vraiment on essaye de donner le minimum pour que un certain nombre de secteurs ne s'effondrent pas sur eux-mêmes. Mais c'est évidemment pas la hauteur des difficultés qui sont celles aujourd'hui des Français et même de ceux qui bénéficient des aides, parce que vous voyez bien que les aides qui sont accordées ne sont pas à la hauteur de l'augmentation auquel ces secteurs font face. Et d'ailleurs, par exemple, dans le transport, les professionnels nous disent qu'ils sont incapables en réalité de répercuter la hausse du carburant sur leurs propres clients. Donc tout ça, ce sont des affaiblissements d'entreprises. On a déjà, il y a déjà 70 000 défaillances d'entreprises, c'est un record absolu. Et donc, le gouvernement n'est pas à la hauteur dans ce qu'il propose pour pouvoir permettre le moindre optimisme.
Vous en parlez presque avec une sorte de... Vous dites de toute façon quoi ? Vous en attendiez
pas autre chose ?
Ben non, j'en attendais pas autre chose, puisqu'il avait dit lui-même qu'il refusait précisément de mettre en place la baisse que nous souhaitons de la fiscalité sur le carburant, puisque nous souhaitons que la TVA baisse de 20 à 5,5. Nous souhaitons que les certificats d'économie d'énergie qui renchérissent le prix soient supprimés, et même qu'on puisse agir sur la TICPE de manière transitoire.
Dans le contexte
actuel, la TVA, en revanche, étant, à notre sens, nécessaire de manière définitive.
Dans le contexte actuel, en l'état de nos finances, vous maintenez qu'il faut baisser les taxes ?
Bien sûr, parce que en réalité, tout ça est une histoire de choix. De choix politique. Il ne s'agit pas de geler la situation. Parce que geler la situation, ça veut dire que le gouvernement refuse de faire des économies. En fait, c'est ça. La réalité, c'est qu'il refuse de faire des économies sur d'autres sujets. Et nous, nous disons, il faut faire cet effort fiscal pour les Français. Et par ailleurs, nous l'avons fait dans le contre-budget que nous avons présenté, il y a énormément d'économies à faire sur ce que nous considérons
alors, vous allez
mauvaises.
Me dire, vous allez me dire où vous feriez-vous les économies, mais quand je regarde nos voisins, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, qui ont baissé les taxes. L'Espagne a baissé la TVA à 10% jusqu'à fin juin. Le coût, c'est 5 milliards. Et fin juin, mécaniquement, l'essence va remonter, mais alors d'un coup. Est-ce que vraiment c'est souhaitable ?
Non, mais moi je vais pas, l'essence n'augmenterait pas d'un coup, puisque encore une fois la baisse de la TVA de 20 à 5,5 que nous souhaitons parce que l'énergie est un bien de première nécessité serait pérenne. Parce que il faut bien comprendre une chose, c'est qu'à côté de l'augmentation des carburants, il y a tout le reste.
Mais regardez, je veux dire, l'Italie a baissé effectivement les taxes et juste après l'avoir fait, elle s'est rendue compte que ça lui coûtait tellement cher qu'elle a déjà renoncé à le faire sur l'essence. Elle ne le fait plus que sur le diesel.
C'est leur problème, mais est-ce que leur taux de fiscalité
est-ce que vous vous heurteriez pas au même réel que l'Italie ?
Non. Est-ce que le taux de fiscalité de l'Italie est aussi important sur le carburant que celui de la France ? Donc, parallèlement, encore une fois, au carburant, le fuel a pris 55%. Aujourd'hui, les Français n'arrivent plus à remplir leurs cuves. Ça veut dire que l'hiver prochain, ils ne vont pas se chauffer. Le gaz a pris 20% en un an. Le soufre a augmenté de 90%. De 60%, le bitume de 40%. Vous voyez, il y a un effet cumulatif en réalité qui aujourd'hui met honnêtement les Français dans une situation intenable.
Total va prolonger ses plafonnements, finalement à ce week-end de grand départ de Pentecôte. Mais après, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est censé être le dernier week-end. Qu'est-ce que vous dites à Total aujourd'hui ?
Bah, c'est bien le problème. C'est pour ça que je préfère qu'il y ait une taxe sur les surprofits plutôt que d'attendre la bonne volonté de Total, qui peut en avoir, mais qui peut aussi décider de ne plus en avoir de bonne volonté. Vous voyez, c'est plus simple, à mon avis, et plus juste de mettre en place une taxe sur les surprofits, c'est-à-dire les profits qui sont générés en été sans... que la qualité de l'entreprise, sa stratégie, soit à l'origine de cette augmentation. Et c'est aussi d'ailleurs plus juste que le super IS qui a été choisi, qui est la voie qui a été choisie par le gouvernement et contre laquelle nous étions.
Dans les choix budgétaires qui sont faits, vous dites au fond, l'État ne fait pas les bons choix. C'est une question aussi, au fond, d'attribution de l'argent public. Il y a quand même une chose qui coûte très cher à l'État, c'est la question des retraites. Je voudrais vous interroger parce que je ne sais plus quel est votre programme sur les retraites.
Ah bon, c'est le même que celui de 2022 en l'État. Donc
vous êtes toujours pour un retour à la retraite à 62 ans, oui, mais... voire 60 pour ceux qui ont commencé à travailler.
Oui, mais en réalité, je crois que Jean-Philippe Tanguy a raison. Cette réforme n'a pas été comprise par nos interlocuteurs. Ça n'est pas une réforme paramétrique. D'ailleurs, on voit que les réformes paramétriques ont toujours été inefficaces. Hein. Plus on demande aux gens de travailler longtemps, plus en réalité le déficit continue. Donc ça n'est pas
ça
la bonne
quoi, paramétrique.
La bonne, ça veut dire qu'en fait, on n'agit que sur l'âge du départ à la retraite. La vraie question, c'est comment est-ce qu'on règle le problème de la retraite sur les fondamentaux qui sont ceux de notre système de répartition, c'est-à-dire comment on agit sur la productivité, comment on agit sur le taux d'activité en France qui est beaucoup trop bas, et comment on agit sur la création de richesses. Voilà. Et tout ça, c'est un ensemble. Notre réforme à nous, elle part du principe que on n'est pas assez à travailler en France. Et c'est vrai, on n'est pas assez à travailler en France. Notre taux d'activité est 10
donc
points
vous
inférieur.
Voulez que les gens
exemple,
commencent à travailler plus tôt, notamment,
voilà.
Et donc, travaillent plus tard.
Donc, cette réforme, elle avait deux objectifs. D'abord, c'était faire entrer les jeunes sur le marché du travail plus tôt, parce que ainsi.
Mais ça, tout le monde le veut. Enfin, quand vous écoutez le gouvernement, oui, il vous dit qu'il veut bosser sur le chômage des jeunes et le chômage des seniors.
Il ne faut aucune incitation. Cette réforme des retraites que nous proposons, qui permet, lorsque vous commencez avant 20 ans, de cotiser 40 annuités et de partir à 60 ans, c'est une forte incitation pour les jeunes pour rentrer sur le marché du travail. C'est une vraie incitation. Donc, il faut que les jeunes travaillent plus tôt. Ça, c'est une absolue certitude. Il n'y a pas que ça. Il y a l'apprentissage, il y a la réindustrialisation qui est nécessaire, il y a la baisse de la fiscalité de production.
Mais dans cet ensemble, Marine Le Pen, vous maintenez un départ à la retraite à 62 ans.
Oui.
Parce que la question a été posée à Jordan Bardella, vous l'avez, j'imagine, lu, l'interview qu'il a donnée à nos confrères allemands du Frankfurter Allgemeine Zeitung. La question, c'est, êtes-vous pour un âge de la retraite plus élevé? Et Jordan Bardella répond, nous examinons actuellement cette question.
Non, ce que nous examinons, c'est parce qu'il nous manque un bout sur lequel ça mérite qu'on travaille encore, et on sera prêt pour la présidentielle, c'est comment est-ce que on fait augmenter le taux d'activité des seniors? Parce qu'aujourd'hui, c'est bien gentil de vouloir faire travailler les gens 64, 65, voire 67 ans, comme Monsieur Édouard Philippe le souhaite. Il y a qu'un malheur, c'est que les entreprises les virent à 55. Hein, voyez, donc je veux dire, et ça, pour l'instant, nous sommes en train de réfléchir pour savoir comment on met en place des incitations, soit pour que les seniors aient un avantage à continuer à travailler, y compris à temps partiel, alors qu'ils sont déjà à la retraite, soit pour négocier avec les entreprises pour qu'elles arrêtent, tout en réclamant une augmentation de la durée de travail dans la vie, qu'elles arrêtent les considérer comme inemployables.
Est-ce que c'est
de 60 voire 55 ans?
Est-ce que ça veut dire, Marine Le Pen, que si vous ne trouvez pas c'est-à-dire si vous vous heurtez effectivement au fait que en France, même si vous arrivez au pouvoir, imaginons vous êtes élu, mais vous vous rendez compte qu'au fond vous mettez énormément de temps à réussir à prolonger, à faire en sorte que les entreprises gardent, en effet comme vous dites, non, les gens activité plus longtemps, ça veut dire que vous suspendrez ce retour
mais
à 62
non,
ans?
Mais non,
vous le ferez quand même. Vous ferez quoi qu'il arrive.
Cette réforme, c'est une très bonne réforme.
Ok, donc
c'est
vous une réforme, quoi qu'il arrive, on reste sur les 62
ans. C'est une
ans.
Réforme qui est, encore une fois, juste et économiquement pertinente et performante. Elle est juste aussi parce que il y a quand même une forme d'injustice aujourd'hui. C'est que celui qui commence à travailler avant 20 ans, il va cotiser un nombre d'annuités beaucoup plus importante que celui qui commence à travailler à 30 ans. Et ça, je trouve que ça n'est pas juste.
Mais ça veut quand même aussi dire que celui qui a commencé à travailler à 30 ans, il pourra partir à 62?
Oui. Ben non, parce qu'il y a des annuités quand même nécessaires.
Donc vous faites le mélange quand même entre les deux.
D'accord, mais vous savez qu'à compter de 67 ans, il y a en quelque sorte
vous gardez quand même.
Mais vous comprenez que celui qui commence à travailler avant 20 ans, en règle générale, a un travail plus difficile que celui qui commence à travailler à 30 ans, parce que celui qui commence à travailler à 30 ans a fait des longues études et donc, en règle générale, a un travail.
Il y a une chose que je voudrais comprendre, Marine Le Pen, c'est est-ce que le programme, vous dites, on sera prêt pour la présidentielle? On sait bien, évidemment.
Non, on améliorera. Si vous voulez, tout est toujours améliorable. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on s'arrête pas en disant on est les meilleurs, on a trouvé un truc génial et donc on arrête de travailler. On travaille tout le temps, en permanence depuis 2022. On a énormément travaillé pour trouver des solutions, améliorer celles qu'on avait d'ores et déjà proposées pour que les choses soient les plus performantes possibles.
Ma question, c'est le 7 juillet, on saura si vous pouvez être candidate à la présidentielle.
Oui.
Et si ça n'est pas vous, on l'a bien compris, ce sera Jordan Bardella. Le programme, que ce soit vous ou Jordan Bardella, il y aura zéro changement?
Je peux pas vous dire ça parce que de toute façon, nous allons être amenés à faire, Jordan et moi, des arbitrages. Là, on démarre.
Avez-vous la même vision?
Un cycle extrêmement.
Avez-vous la même vision économique?
Oui, je crois qu'on a la même vision économique. D'ailleurs, nous avons défendu le même programme et en 2022 et en 2024, sans que ça pose aucune difficulté. Alors, je sais que le monde journalistique adore essayer de jouer le jeu des 7 différences. Ah oui, mais là, il n'a pas utilisé le même terme que... nous avons les mêmes objectifs, nous avons le même projet, nous en discutons. Parfois, nous sommes amenés à faire des arbitrages, nous les faisons ensemble et nous entrons là dans une série de réunions qui vont être nombreuses, lui, moi et nos équipes, pour effectuer les derniers arbitrages.
Ma question est moins un jeu des 7 différences que de savoir au fond quel poids vous accordez à l'incarnation pour la présidence de la République. C'est-à-dire, est-ce que au fond, le programme, que ce soit vous ou lui, de toute façon, il est arrêté et donc ça ne changera rien? Ou est-ce que vous considérez que vous, comme lui, vous avez des convictions, vous avez une manière de faire la politique qui est différente?
Mais la manière n'est pas la même. Encore une fois, le fait que nous soyons d'accord.
Est-ce qu'il aura une marge?
Le fait que nous soyons
est-ce
d'accord.
Est-ce que vous en aurez?
Le fait que, évidemment qu'un candidat à la présidentielle a l'intégralité des marges qu'il veut, qu'il souhaite. Mais je crois que pour que on utilise ces marges, encore faut-il avoir des divergences et des divergences profondes. Nous n'en avons pas. Je suis désolée de le dire parce que je sens que ça plairait à certains qu'on ait vraiment des différences considérables. On n'en a pas. Voilà. Et si je suis candidate, il sera mon Premier ministre, vous imaginez bien qu'il est quand même mieux que nous ayons les mêmes convictions.
Mais ce ne sera pas l'inverse, par contre.
Non, ce ne sera pas l'inverse.
Qu'est-ce que vous ferez si le 7, on vous dit que vous ne pouvez pas être candidate?
Eh bien, je ferai la campagne de Jordan Bardella.
Vous n'arrêterez pas, vous ne vous retirerez pas, vous ferez la campagne activement.
Ah oui, bien sûr.
À ses côtés, vous continuerez à être tous les deux.
Mais oui, parce que si vous voulez, je me suis jamais battue pour moi-même. Je me bats pour des idées. Voilà, je me bats pour que nos idées arrivent au pouvoir, parce que je pense qu'elles sont bonnes pour la France et pour les Français. Donc, il s'agit pas de dire je vais arrêter de combattre au motif que c'est pas moi qui suis candidate. Vous savez, j'ai combattu, j'ai défendu d'autres candidats, en moins un. Autre candidat pendant longtemps.
Jean-Marie Le Pen.
Et demain, si la justice, ce que je considérais quand même comme un déni démocratique majeur, m'empêchait d'être candidate, eh bien, je continuerai à défendre les idées auxquelles je crois.
Vous, présidente, il serait où le Charles de Gaulle ?
Moi, ça ne me pose pas une difficulté majeure qu'il soit là où il est actuellement. Je pense que le porte-avions est un élément de puissance de notre pays. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je me suis prononcé pour qu'il y ait un deuxième porte-avions. Je sais qu'un certain nombre de membres du gouvernement ont une vision un peu différente, mais je pense que ce porte-avions, il incarne en quelque sorte la puissance française. Maintenant, a-t-il une utilité autre que celle-là au moment où nous nous parlons? Manifestement, non.
Je vais vous poser des questions, évidemment, sur les ZFE, y compris sur aussi des questions de société, sur ce qui s'est passé la nuit dernière à Paris, mais quand on regarde le contexte, il est évidemment dû à ce qu'il se passe là-bas. Vous, présidente, est-ce que vous resteriez, par exemple, dans le commandement intégré de l'OTAN, ou est-ce que vous le quitteriez, comme c'était votre programme initialement?
Non, je pense qu'il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Il faut rester dans l'OTAN. Je le redis parce que parfois mes propos sont dénaturés. Il faut rester dans l'OTAN, mais il faut sortir.
C'est une question de gouvernance.
Il faut sortir du commandement intégré de l'OTAN. Et le fait de sortir du commandement intégré de l'OTAN n'empêche absolument pas d'avoir une interopérabilité entre les armées alliées.
C'était le cas
avant que Nicolas Sarkozy ne décide
de réintégrer
le commandement.
Ça veut dire Marine Le Pen que vous le feriez. La vraie question aujourd'hui,
c'est quid de l'OTAN, surtout, vous voyez, au-delà du commandement intégré.
Vous vous interrogez même sur la suppression de l'OTAN? Est-ce que vous seriez favorable à la suppression de l'OTAN, ou est-ce que vous la subiriez?
Non, je ne suis pas favorable à la suppression de l'OTAN, mais j'ai entendu, il y a plusieurs années, le président de la République dire l'OTAN est une coquille vide, et je m'attendais à ce qu'il fasse des propositions. Moi, j'ai fait des propositions pour que l'OTAN se réoriente dans le cadre de la lutte contre le fondamentalisme islamiste, parce que je pense que c'est un des plus grands dangers qui pèse sur l'ensemble de nos pays. Bon, donc je propose quelque chose. Lui, il dit, c'est une coquille vide, et puis point. Et donc, en réalité, on dépend de la décision de Donald Trump. C'est quand même un peu regrettable.
Vous quitteriez le commandement intégré de l'OTAN dès votre arrivée au pouvoir?
Oui, enfin, dès notre arrivée au pouvoir, dans le quinquennat.
Alors, vous allez encore me dire que je joue aux différences, mais c'était pas cette question-là. Mais il se trouve que c'est Jordan Bardella qui l'a dit. Lui, lorsqu'il a été interrogé la dernière fois là-dessus, il dit, on ne le ferait pas tout de suite. Parce qu'on ne change pas les traités en temps de guerre.
Mais oui, mais il a raison. Il a raison. Tant qu'il y a la guerre, et notamment la guerre en Ukraine à l'époque, je pense que ça n'est pas de bonne politique. Mais c'est notre objectif.
Qui seront vos alliés?
Mais
Donald Trump, Giorgia Meloni, est-ce qu'il faut reparler avec la Russie? Est-ce qu'il faut aller en Chine?
Mais madame, il faut parler à tout le monde. Je veux dire, en fait, c'est ça le concept même de la diplomatie, c'est de parler à tout le monde. Parce qu'à force de ne plus parler à personne, eh bien, on ne joue plus en réalité aucun rôle. Et là, l'effondrement de l'influence française est aussi lié à une problématique qu'a Emmanuel Macron, c'est que il a tendance à se fâcher avec la terre entière. J'ai souvent l'occasion de dire, il a quand même réussi à se fâcher avec le Maroc et l'Algérie en même temps, ce qui en fait n'arrive jamais.
Il veut se réconcilier général, avec l'Algérie.
Ou l'un ou l'autre. Bon.
Il veut se réconcilier avec l'Algérie.
Vous auriez envoyé vos ministres en Algérie.
Oui,
non, mais moi je crois que avec l'Algérie, il n'agit pas de la bonne manière, si vous voulez. L'Algérie est un pays indépendant depuis 1962. Ça fait donc l'Algérie. Indépendante à 64 ans, elle est adulte. C'est une nation souveraine. Mais il faut qu'elle se comporte comme une nation souveraine. Donc, s'il s'agit de se comporter comme une nation souveraine, en respectant le droit international, en arrêtant de faire peser sur la France des responsabilités qui sont la responsabilité du gouvernement algérien sur les difficultés, notamment économiques et sociales, qui sont les siennes. Nous, on est prêts à discuter. Parce qu'il faut discuter avec tout le monde. Mais s'il s'agit de continuer à voir nos compatriotes être traités de manière scandaleuse, comme ça a été le cas pour Boualem Sansal, comme c'est le cas pour Blaise, à se faire cracher au visage, à demander à la France des génuflexions ininterrompues, pour nous, ce sera non. Voilà, c'est aussi clair que ça.
Gérald Darmanin parle d'un éventuel traité d'amitié. Un nouveau traité d'amitié avec l'Algérie.
Mais tout ça, ce sont des mots. Ce qu'il faut, c'est que l'Algérie récupère les OQTF algériens. Voilà, c'est assez simple comme concept. Voilà. Il faut qu'elle arrête de refuser d'appliquer le droit international. Il faut qu'elle arrête, encore une fois, d'accuser la France de tous les maux, alors qu'une grande partie des responsabilités sont les leurs dans la situation de l'Algérie. Et si elle se comporte en nation mature, en nation majeure, au sens qu'elle n'est pas dans la minorité, elle a la majorité, vous voyez ce que je veux dire, il y a très certainement moyen de que la situation s'améliore.
Vous parlez de la question des OQTF.
En l'état, c'est non, voilà.
En l'état, c'est non. Laurent Nunez, qui était mon invité cette semaine, disait que son homologue, c'est-à-dire le ministre des Affaires de l'Intérieur algérien, allait venir probablement la semaine prochaine en France. Est-ce que vous êtes favorable, vous, justement, au pouvoir? Vous seriez pour ce genre de dialogue? Est-ce qu'il faut dialoguer? C'était l'inverse que demandait Bruno Retailleau.
Il faut dialoguer avec toutes les nations parce que ça permet de défendre les intérêts de la France. Donc, il faut dialoguer, mais il ne faut pas s'agenouiller. C'est là où je crois que le gouvernement a du mal à voir la différence. Nous n'avons pas à nous agenouiller devant l'Algérie, qui, il faut bien le dire, a à l'égard de la France un comportement qui est éminemment critiquable.
Vous avez vu sans doute les images qui ont été diffusées par le ministre de la Sécurité intérieure israélien, où on voit des militants d'une flottille pro-palestinienne qui ont été menottés à genoux, plaqués au sol, la tête baissée. L'ambassadeur d'Israël en France a été convoqué officiellement par le Quai d'Orsay, même si lui-même, comme Benjamin Netanyahou, condamne les agirs de leur ministre de la Sécurité intérieure. Quelle est la position que doit avoir la France ?
Mais je crois que la France doit condamner ce type de comportement. Ce comportement est inadmissible. Voilà, c'est inadmissible. Et je pense que le gouvernement israélien l'a lui-même admis. Voilà. Il faut espérer maintenant qu'il en tire les conséquences.
Il y a 37 Français parmi ces militants qui ont été arrêtés en Israël.
Oui, mais je pense que la France a bien fait d'exprimer sa très vive réprobation de ce type d'agissement.
Marine Le Pen, les ZFE, finalement, c'est rétabli. Le Conseil constitutionnel a rétabli les ZFE, les zones à faible émission, hier, au motif qu'il s'agissait d'un cavalier législatif. En gros, l'idée, c'est que ce soit un morceau de loi qui n'a rien à voir avec la loi principale. Comment est-ce que vous réagissez ?
Je pense que c'est une analyse éminemment politique de la part du Conseil constitutionnel, parce que le fait de permettre à des gens qui sont interdits d'aller travailler, d'aller rencontrer leurs clients dans les grandes villes au motif qu'ils ont une voiture trop vieille, si ça n'a pas de lien avec la simplification de l'économie, je vois pas avec quoi ça a un lien. Donc le Conseil constitutionnel, avant, avait une vision restrictive de ces cavaliers législatifs. Aujourd'hui, il en a une vision extrêmement extensive. C'est ainsi d'ailleurs qu'il a pu considérer par le passé, il y a quelques mois, que le fait de repénaliser le séjour irrégulier des immigrés n'avait rien à voir avec la loi immigration. Il n'y avait ni lien direct, ni lien indirect. Bon, ça me pose un problème, moi, je vais vous dire. Parce que quand il a été auditionné, M. Ferrand s'était engagé à quelque chose.
M. Ferrand, c'est le président du Conseil constitutionnel.
Voilà. Le président du Conseil, enfin, à l'époque, le candidat à la présidence du Conseil constitutionnel, s'était engagé à ne pas se prendre pour un législateur et à ne pas se prendre pour un constituant. Or, c'est exactement ce qu'il fait aujourd'hui. Et je pense que le Conseil constitutionnel a tort et affaiblit beaucoup son autorité en se comportant ainsi. Parce que ce que veut le peuple français doit être respecté. Et ça n'est pas par des arguties juridiques du type de celles utilisées par le Conseil constitutionnel qu'il empêchera les Français d'obtenir ce qu'ils veulent. Alors nous allons demander à la présidente de l'Assemblée nationale de d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée de la semaine de l'Assemblée une PPL sur la suppression des ZFE pour que l'Assemblée puisse à nouveau exprimer.
Donc vous allez retenter votre chance, j'allais dire. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, vous considérez que le Conseil constitutionnel, que les juges font de la politique.
Ah bah en tout cas, ils contraignent la démocratie. Enfin, je veux dire, le Parlement est la représentation du peuple français. Or, pour, encore une fois, avec des arguments très contestables sur le plan juridique, ils contraignent...
Il fait du zèle, pour vous, le Conseil constitutionnel ?
Oui, certainement. Ils contraignent la volonté exprimée par le peuple. C'est quand même très problématique, parce que c'est vrai sur les ZFE, c'est vrai sur le ZAN, c'est vrai sur l'immigration, ça commence à faire beaucoup.
Sur la question des nominations, Emmanuel Moulin, confirmé comme gouverneur de la Banque de France.
Oui, bon, on voit bien qu'il y a là une kyrielle de nomination de macronistes à tous les postes qu'il considère comme étant importants, parce qu'en réalité, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de faire survivre le macronisme après la fin du macronisme. Alors, je vais lui dire quelque chose de très clair. Il n'y arrivera pas. Voilà, il n'y arrivera pas.
Ça veut dire quoi ?
Ça sert à rien d'aller multiplier les nominations des copains.
Mais une fois qu'ils seront là, vous allez pas les virer.
Oh, il y en a un certain nombre qu'on peut changer, si quand même.
Qui vous pouvez changer ?
Non, mais il y en a quand même un certain nombre qu'on peut changer. Je peux vous le dire moi. Donc, il n'arrivera pas à contraindre, à empêcher l'expression, encore une fois, de la volonté politique du peuple, parce que ça, c'est très condamnable. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en réalité, on met
des gens. Vous estimez que c'est antidémocratique ?
Bah, bien sûr, parce qu'on met des gens à des postes qui sont vos copains, en se disant, ils vont être autant d'obstacles à la mise en œuvre d'une autre politique que celle que j'aurais exercée, alors que les Français auront voulu une autre politique. C'est vraiment, je trouve, une manière de voir les choses qui est très antidémocratique. Ouais.
Marine Le Pen, est-ce que Patrick Bruel peut encore donner des concerts comme si
il peut donner des concerts, mais personne n'est obligé d'aller les voir.
Vous n'iriez pas ?
Ah non, moi j'irai pas. De toute façon, j'y serais pas allé, même si
vous y seriez pas allé parce que pas.
Non, parce que je l'aime pas. Pardon, j'ai encore le droit ou
non, mais c'est
Monsieur Bruel.
Donc vous,
il aime pas non plus. Vous me direz donc en fait quelque chose quelque part. c'est voilà.
Est-ce qu'il faut aller plus loin, c'est-à-dire pas juste dire il a le droit d'y aller, mais les gens sont pas obligés d'y aller, ou est-ce qu'il faut, comme un certain nombre de maires, s'engager à lui demander vraiment de renoncer?
Ah, mais le problème c'est qu'on peut pas, parce que si on fait ça, on rompt avec l'état de droit. Vous voyez, moi je suis avocat, je sais que ça peut déplaire à certains, mais il y a un principe fondamental dans le droit, c'est la présomption d'innocence. C'est-à-dire que tant que vous n'êtes pas définitivement condamné, vous êtes présumé innocent. Ça n'empêche pas que chacun peut avoir sa conscience personnelle, son intime conviction sur les faits de la cause. Mais en l'espèce, si vous voulez, faire cela, ça veut dire... et c'est lui, ou pour les autres d'ailleurs, ou pour quiconque d'autre, c'est condamner quelqu'un à la mort professionnelle ou à la mort sociale avant que la justice se soit prononcée.
Est-ce que ça veut dire, par exemple, prenons l'exemple de Patrick Poivre d'Arvor. Patrick Poivre d'Arvor, un certain nombre de témoignages de femmes, mais pas de procès, parce que les faits étaient prescrits. Est-ce que vous considérez que Patrick Poivre d'Arvor, en fait, aujourd'hui, il pourrait, et ce serait la présomption d'innocence, présider des festivals de lecture, avoir même peut-être une émission sur la lecture,
Mais encore une fois,
vous choquerait pas.
C'est pas la présomption d'innocence. Ça peut me choquer à titre personnel.
Mais ça vous choque à titre personnel.
Mais je me suis, mais oui, moi je considère que tous ces gens qui se comportent comme, qui sont en tout cas accusés de se comporter comme des porcs avec les femmes, c'est une véritable honte.
Vous êtes très choqué par les témoignages des femmes sur Patrick Bruel.
Évidemment que oui. Mais encore une fois, les principes, ils doivent être appliqués, même quand ils vont, à rebours de votre sentiment personnel. C'est ça la force d'un principe. Et si vous n'appliquez le principe au bénéfice de vos propres amis, mais pas au bénéfice de gens avec lesquels vous n'avez pas de point commun, alors vous n'avez plus de principe. Et moi, j'ai des principes, j'y tiens, et on ne peut pas encore une fois parler de l'état de droit en toutes circonstances sans les respecter. Même si ça fait mal, même si ça dérange,
une trentaine de témoignages et une dizaine de plaintes déposées. Comment vous réagissez? Vous croyez ces femmes?
Non, mais moi je suis pas magistrat. Et je ne suis pas chargée de cette affaire. Je n'ai pas entendu en instruction l'ensemble de ces plaignants. Voilà, je pense qu'un certain nombre de personnages ont évolué dans des milieux où en réalité, bien souvent, tout le monde savait peu ou prou qu'il se comportait mal. J'ai entendu une attachée de presse qui évoquait ces sujets-là. C'est pas la première fois. Donc aussi, peut-être, la prise de conscience qui doit être celle de chaque citoyen et de chaque milieu, c'est de se dire, est-ce que on n'a pas fermé les yeux aussi sur ces sujets-là?
Gilles Lellouche a été interrogé sur vous, sur le RN. C'était en marge de la présentation de son film, le biopic sur Jean Moulin. Il est interrogé par un journaliste qui se réclame du média Parole d'honneur, qui lui dit, pensez-vous qu'il est aujourd'hui primordial pour ne pas trahir la mémoire de Jean Moulin, de combattre résolument le Rassemblement national? Et il ajoute une seconde question, pensez-vous également que la France insoumise majoritaire à gauche est aujourd'hui le meilleur rempart à l'extrême droite, son programme étant aussi inspiré du programme du Conseil national de la résistance.
Okay. Et Jean-Luc sort de ce corps.
Et Gilles Lellouche a répondu, elle n'est pas un peu orientée votre question, je n'ai pas de réponse à ça, monsieur.
Bah ouais, il a bien fait.
Il a bien fait.
Bah bien sûr qu'il a bien fait. Enfin, écoutez, l'outrance de la question était telle qu'il a eu raison de ne pas répondre à cela. Enfin.
Mais sur la question, est-ce qu'il faut combattre le Rassemblement national?
Mais est-ce que c'est son rôle? Je veux dire, est-ce que c'est le rôle d'un acteur? Le rôle d'un acteur, c'est de jouer. C'est de voilà le jeu, le rôle d'un scénariste, c'est de faire des scénarios. Alors chacun a le droit comme citoyen de donner son avis, mais personne n'est obligé de le faire. Et ce qui est incroyable, c'est que quand il refuse de le faire, quasiment il est suspecté de je ne sais quoi. On pourrait avoir un peu de liberté là quand même, où vraiment on est en train de se faire enfermer par l'extrême gauche dans une sorte de procès d'intention permanent. Je trouve qu'il faut combattre ça parce que la liberté c'est fondamentalement français.
Une dernière question sur ce qui s'est passé cette nuit à Paris. 65 personnes ont été interpellées, il y a des blessés, 6 blessés dont un grièvement. Visiblement un rassemblement de supporters de l'OGC Nice et une bagarre. Est-ce qu'aujourd'hui on arrive quand même à ce qu'il n'y ait pas trop de débordements autour du foot?
Bah non, à un moment donné ça s'était calmé, puis manifestement ça repart. Enfin, j'ai envie de vous dire que de manière générale, il faut vraiment avoir une réflexion, nous l'avons eu nous, sur l'aggravation des peines quand il s'agit d'atteinte à l'intégrité physique. Parce qu'en réalité, il faut revenir dans nos sociétés à une sacralisation de l'intégrité physique. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacralisation de l'intégrité physique. C'est-à-dire que on tape, on frappe, on manque de tuer, tout ça pour un regard, une cigarette, ou un désaccord sur le football. Là, il faut vraiment être très rigide parce que c'est un danger majeur, je crois, pour notre sécurité de peuple.
Merci Marine Le Pen d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous êtes bien sur RMC BFM TV.